la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette 57e émission de Par le bout de la lorgnette, sans Nico qui est sur la route, mais avec Héloïse qui est là, qui a un super livre celte à nous présenter aujourd'hui.
Oui, tout à fait, mais c'est tu n'as pas annoncé le thème, c'est pas la culture celte en tout cas.
C'est vrai, absolument. Alors non, parce que je l'annonce après le thème en fait, c'était préparé comme ça. Comment on va ?
Bah écoute, ça va, la neige, c'est beau, faites attention de ne pas glisser, tout va bien se passer.
Exactement, tu as bien raison. Valérie aussi est là, elle est en forme.
Et je suis en grande forme, salut tout le monde.
Salut, ta pizza est en forme aussi ?
C'est pas ma pizza, hélas.
Une grande faim aussi.
C'est ça. Popo revient de la messe, alléluia Popo.
Salut tout le monde.
Ça va ?
Non, je suis un peu mal à l'aise là.
Oui,
par rapport à la messe ou je sais pas.
C'était la semaine dernière que tu étais à la messe, non ?
Oui, oui, c'est pour ça que tu te trompes.
Oui, c'est ça, je me suis trompé. Allez, aujourd'hui on va parler d'arbres, non pas parce que les livres sont fabriqués à partir des arbres, mais parce qu'on les aime, les livres et les arbres, et qu'il y a toute une littérature sur le sujet, n'est-ce pas Héloïse ?
Oui, surtout en ce moment, c'est la grande mode effectivement de s'intéresser... aux arbres, bah, à leur mode de vie, on découvre plein de choses. En ce moment, les scientifiques découvrent plein de choses sur les arbres, les forêts, leur fonctionnement. Y a beaucoup de livres pour enfants aussi qui sortent dans ce regain d'intérêt pour la nature et pour la préserver. Donc voilà, je m'étais dit que c'était un chouette thème.
Eh bien, tu as bien raison.
Après, Nico avait plein de livres.
Voilà, donc l'émission va peut-être pas durer une heure parce que Nico est pas là et qu'on n'a pas beaucoup de livres à vous présenter, mais on va quand même essayer de vous parler au maximum de cette littérature spéciale arbre. Donc voilà, c'est les arbres, hein. C'est pas l'environnement, comme Valérie a pu le dire sur les réseaux sociaux. C'est bien les arbres. Popo qui a bien bossé, qui a deux livres. On va te laisser commencer cette émission.
Ok. Eh bien, je vais commencer avec L'homme qui plantait des arbres.
De Giono, classique.
Qu'il a écrit en 1953. Alors, c'est un contexte un peu particulier puisque c'est une commande de Reader's Digest. Alors, je ne sais pas pourquoi ils avaient des liens, s'il était déjà célèbre.
J'ai
cherché un peu pourquoi ils ont commandé à Giono une nouvelle, parce que c'est très bizarre. Ils lui ont quand même commandé une nouvelle sur un personnage qui l'a marqué. Voilà, c'était ça la commande. Et donc, il va écrire cette nouvelle, L'homme qui plantait des arbres. Et il l'a écrit pour faire aimer, pour encourager les gens à planter des arbres. Je trouve que c'est très mignon.
Déjà. Très belle initiative.
Et en 57, c'était quand même assez précurseur, du coup.
Vachement, ouais. Ouais. Et du coup, il a écrit cette nouvelle. Ça a eu un retentissement incroyable, mondial. Ça a été tout de suite... c'est aujourd'hui parce que l'écologie, la notion d'écologie, en 53, c'était pas forcément très très présent, mais voilà, c'est presque un manifeste écologique, c'est une ode au développement durable, c'est un livre, comme tu disais, hyper précurseur de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire, mais je vais en raconter très peu vu que c'est une nouvelle, c'est très court. En fait, on rencontre un personnage dont on ne connaît pas le nom, qui fait une petite rando dans les Alpes, entre les Alpes et la Provence, je ne sais pas exactement où. Et il va se retrouver à manquer d'eau, donc il va chercher, jusqu'à tomber sur un berger, Elzéar Bouffier, qui va l'inviter chez lui, justement, pour lui proposer justement de boire, mais aussi de manger, de se reposer. Et donc, Elzéar, il vit seul avec son chien, ses moutons. Et donc, le soir, pendant le repas, il se passe un truc un peu particulier, c'est-à-dire que Elzéar va sortir tous les glands qu'il a dans ses sacs, etc. Il va se mettre à les trier hyper minutieusement. C'est hyper... c'est un tri très particulier, d'ailleurs. Le héros, le personnage qu'on suit, parce que le héros finalement c'est plutôt Elzéar, comprend pas trop le tri des glands, et donc c'est très très minutieux, il en met 100 de côté, et puis une fois qu'il est arrivé à ses 100, le tri est terminé, tout le monde va se coucher sans plus d'explications. Du coup, le narrateur un peu intrigué lui demande s'il peut passer encore quelques jours de plus avec lui. Il voudrait savoir qui est ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait ce berger. Et donc, il va le suivre le reste de la journée. Il va voir que finalement, ce tri de glands s'était fait pour planter des arbres, puisque c'est l'homme qui plantait des arbres.
Et pas l'homme qui mangeait des glands.
Voilà, pas du tout.
Sinon, il les aurait mangés.
Ça ne se mange pas, un gland.
Sauf si c'était un cochon.
Voilà.
Voilà. Du coup, c'est quelque chose que ce berger fait depuis 3 ans. Alors, il dit avoir planté des centaines de milliers d'arbres. Après, évidemment, tous n'ont pas pris. Seulement 20 000 sont sortis.
Seulement.
Mais donc, il surveille, en fait, la pousse des arbres. Il se souvient où est-ce qu'il plante chaque gland.
Voilà, enfin, chaque gland. Alors, petit à petit, il va évoluer dans les essences, dans les espèces d'arbres qu'il va planter. Ça va... Et on va voir tout ce que ça peut, parce que ça va continuer pendant des années et des années jusqu'en 1947. On rencontre le personnage en 1913. Et donc pendant plus de 30 ans, ce berger va planter des arbres et va créer une véritable forêt et autour de laquelle une vie va se créer. Enfin voilà, on voit aussi tout le côté, tout ce que permet... la forêt, tout ce que permet le développement de la nature. Et donc c'est assez joli parce que c'est écrit très simplement, il n'est pas décrit comme quelqu'un de fabuleux, incroyablement merveilleux, enfin c'est pas du tout exagéré, c'est un personnage qui a un but dans la vie puis qui plante ses arbres et ça en fait quelqu'un de bien et c'est touchant, c'est jamais exagéré. Ça fait un peu de bien de lire un récit, bon, je vais dire écologique, même si à la base c'est pas ça, qui soit un peu optimiste, qui soit pas dans l'autre sens où on va tout détruire, on va tout pourrir, tout bousiller. Là, c'est tout l'inverse. On peut sauver la nature, on peut faire des choses pour la planète, et c'est pas si compliqué que ça. Rien que planter un arbre, c'est déjà chouette. Bon, évidemment, il en a planté 20 000. On n'est pas à son niveau, mais déjà un, c'est bien.
Et du coup, est-ce que il le dit pourquoi il a commencé à avoir cette démarche, Elzéar, du coup
Non, on ne l'apprend pas.
On ne sait pas pourquoi il fait ça.
On ne sait pas pourquoi exactement. Peut-être qu'à un moment, il parle de du fait que le paysage, justement, perd ses arbres. Et sûrement que ça a déclenché, mais il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas un événement particulier.
D'accord.
Il veut, je pense, renverser ce que l'homme a enclenché en enlevant des arbres, mais c'est pas...
Le personnage a réellement existé ou pas ?
On se pose la question. Hein, il a été traité... Parce que la commande de Reader's Digest, c'était de parler d'une personne ayant existé.
Oui, qui a marqué l'auteur.
Voilà. Et donc, quand il a envoyé cette nouvelle, le journal lui a dit « Mais vous êtes un imposteur, c'est pas possible, vous vous moquez de nous ». Effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui a existé.
Parce qu'il y a quelqu'un qui existe comme ça. J'ai vu un reportage sur une personne qui plante depuis 20 ans des arbres. Ah. Et il a planté une forêt énorme. Alors, je ne sais plus si c'est au Mexique, je crois que c'est en Amérique du Sud. Et qui a planté, du coup, depuis 20 ans, je ne sais pas combien d'hectares de forêt.
Mais peut-être qu'il avait lu ce livre aussi.
Oui, que ça l'a inspiré. Voilà. Mais très franchement, ça donne envie. On a envie d'aller, d'avoir des graines. Et puis, juste, on passe à côté près d'un bout de terre et on plante notre graine et on se dit peut-être qu'elle va tenir, peut-être qu'elle va sortir, qu'elle va percer, qu'elle va faire un arbre. Et peut-être que dans 10 ans, quand je reviendrai, il y aura un petit chêne. Enfin, c'est assez incroyable de se dire qu'on peut créer quelque chose comme ça, juste avec une graine.
Oui, c'est très beau comme idée.
Ouais.
Nous, on a planté des plants, rappelle-toi, avec Valérie. On a plus passé du temps à côté du barbecue que...
Oui. Ah oui, je me souviens.
Mais bon.
mais ça a bien poussé.
Ça a bien poussé, c'est vrai. C'est un livre qui est illustré.
Oui, là, c'est une... C'est une édition qui a été faite pour la jeunesse, Folio Cadet. Donc, c'est vraiment là pour dans les premiers romans. Je pense qu'il le conseille dès 8 ans. Ouais, je vois
qu'il marque. C'est pas difficile à lire parce que c'est quand même Jean Giono, c'est quand même Académie française, etc. Donc, non, c'est de la littérature très simple, finalement.
Et qui est, franchement, là, c'est jeunesse, mais un adulte peut le lire et passer un moment agréable. C'est très court, donc voilà, c'est plus... ouais, c'est assez émouvant, c'est... Et puis, bon, ça a eu un succès incroyable. C'est à lire aussi parce que pour le livre en lui-même, pas pour l'idée, quoi.
C'est encore un combat écologique à rajouter à ton livre, là, de Earth Force.
Oui, dernière fois, soft, pour enfants. Beaucoup plus en douceur. C'est
ça. Oui, et Jean Giono est un auteur qui a beaucoup écrit sur la nature aussi, par ailleurs, sur les forêts, sur la Provence, etc. Il écrivait beaucoup sur les hommes dans la nature, les paysans, les bergers, etc. Voilà.
Merci beaucoup, Poupo. En tout cas, ça donne envie de le lire et de le faire lire à des jeunes enfants ou des jeunes adolescents plutôt. Ouais.
Sans problème.
Allez, je prends la suite. On va passer parce qu'on parle des best-sellers. On va continuer avec un best-seller qui s'intitule La vie secrète des arbres de Peter Wollenben. C'est un Allemand, donc je sais pas comment ça se dit.
Wollenben.
Ouais, plutôt Wollenben.
Et on en parle beaucoup. Vous en avez sans doute entendu parler parce que depuis des mois, on en parle énormément.
Oui. Tu en as entendu parler, Valérie ?
Alors, j'ai décidé d'arrêter de mentir, donc non.
Très bien. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là.
Tu en avais entendu parler
pour moi le 1er janvier, Valérie.
Oui, mais je les prends moi comme ça, mes résolutions.
Ouais, c'est bien.
C'est plus facile à tenir.
Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est justement pour parler de livres.
Et découvrir.
Alors, c'est un best-seller d'un garde forestier allemand qui commence son ouvrage en expliquant qu'en commençant son travail de garde forestier, il en savait à peu près autant sur la vie secrète des arbres qu'un boucher sur la vie affective des animaux. Donc c'est dire, voilà, ça commence l'avant-propos, c'est ça. Donc c'est bien, il est, c'est quelqu'un d'honnête.
Comme Valérie.
Comme Valérie, exactement. On va t'appeler Wollenben, Valérie.
Je préfère Peter, je crois.
Oui, Peter. Alors contact, donc au contact des arbres, il a appris à les connaître, à les comprendre, car oui, les arbres sont bien un organisme vivant capable de réfléchir. Il était parti en écrivant ce livre pour vendre 300 exemplaires de son ouvrage, d'après ce qu'il a dit dans une interview que j'ai lue. Il en est aujourd'hui à plus de 65 000 outre-Rhin, traduit dans plus de 32 langues. Les ventes atteignent 320 000 exemplaires, soit presque autant que le dernier Marc Lévy, c'est dire.
Bah, c'est bien.
Eh oui, c'est très bien.
Il a Marc Lévy, c'est bien ou les
non,
ventes
c'est bien
de
que, qu'il y ait des choses intelligentes et intéressantes qui dépassent une littérature plutôt facile et...
Plutôt facile, on va rester là. On voit ce que tu veux dire.
Alors, il nous écoute.
Il est âgé de 52 ans, ce petit bonhomme, ce petit garde forestier. Et il a fait des découvertes incroyables et en même temps, il s'est basé sur des études scientifiques pour que ses propos, eh bien, ça ne soit pas voilà, des pensées. C'est vraiment voilà, quelque chose de concret. Alors, pour Peter et ce qu'il nous explique et ce que nous expliquent les scientifiques, les arbres sont des créatures sociales. C'est-à-dire qu'ils apprennent, ils se souviennent, ils s'entraident grâce à plusieurs systèmes de communication. Donc, il y a un premier système de communication fongique. Qu'est-ce que le système de communication fongique ?
Les racines.
Pas les rhizomes.
Les champignons.
Les champignons, un point pour Popo. C'est une sorte de réseau social des bois. Ils s'envoient des micro-signaux pour se prévenir des dangers. Alors, également, entre eux, ils se font des faveurs. Et, par exemple, ils vont diriger leurs branches de manière à laisser passer la lumière pour leurs congénères. Sauf s'il s'agit d'arbres ennemis, alors là, aucun problème.
Tu peux donner un exemple d'arbre ennemi ?
Non. Non, mais par exemple, c'est les acacias et les pins. Alors, je sais pas si ça peut vivre à côté ou c'est des arbres qui sont pas de la même famille, tu vois. Pins, hêtres, ben, y a pas de souci entre eux. Et après, dès qu'il va y avoir des familles qui sont vraiment différentes, à ce moment-là, mais le problème va se régler assez vite parce que l'arbre supérieur va prendre le dessus et il va empêcher l'autre de naître pour qu'il y ait un nouvel être qui pousse, par exemple.
Donc les canopées, c'est que des gros égoïstes.
C'est cela. Et pas du tout, Valérie.
Oh, quelle transition.
Car ils s'entraident. Ils s'entraident. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, donc, ils passent leur existence côte à côte. Ils tirent leur révérence en même temps. Car ils cèdent entre eux, je vais vous l'expliquer aussi après, et révérencieux, ceux qui restent nourrissent via leurs racines les souches de leurs voisins des années encore après leur mort. Donc ils cèdent entre eux, les arbres, ils communiquent et ils sont là pour qu'il n'y ait pas un de leurs congénères qui meurt et au contraire qui puisse survivre. Comment ? Je vais vous l'expliquer après. Elle va être longue cette chronique, hein. Il faut qu'on gagne du temps.
Et puis il faut suivre. Hein.
Alors, ce qui est bien, c'est que Peter est érudit, mais c'est vraiment un pédagogue, c'est écrit de manière assez simple, il expliquait les termes biologiques, trop techniques, ça ennuie tout le monde, ça supprime l'émotion. Quand j'écris par exemple que les arbres allaitent leurs enfants, tout le monde comprend. au lieu de partir sur des thèmes scientifiques. Il parle même des arbres qui aident leurs enfants à grandir, et même les arbres tombent amoureux. Eh oui, ça, personne ne pouvait s'en douter. Alors, ils sont infirmiers pour leurs voisins malades, ça je vous l'ai dit, lanceurs d'alerte en cas d'agression extérieure, capables de produire leur propre insecticide ou d'appeler des alliés à leur rescousse. Ces végétaux, donc, qu'on imagine facilement isolés et immobiles, se révèlent pleins de ressources. Donc, par exemple, allez, je vais vous donner un exemple sur le langage des arbres. Certains arbres émettent un gaz, un message olfactif, comme par exemple l'acacia de la savane africaine. Quand ses feuilles sont mangées par une girafe, il avertit ses voisins, qui augmentent alors la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Et ainsi, les girafes passent leur chemin parce que ce n'est plus mangeable.
C'est pas gentil. Et, si c'est
incroyable,
fou.
Ouais, mais les pauvres girafes.
Ah, c'est génial.
Alors, autre exemple, les êtres qui se font attaquer par des chenilles ou les pins. Ils envoient une odeur pour attirer des guêpes prédateurs de chenilles pour se défendre. Et à ce moment-là, les guêpes qui viennent pondre dans les chenilles arrivent, et du coup, les chenilles sont obligées de partir. Donc ça, voilà, c'est par le biais d'odeurs, de substances que les arbres envoient. Après, le problème, c'est que s'il y a du vent, qu'est-ce qui se passe ?
Les odeurs partent n'importe où, n'importe
comment. N'importe où. Donc, il se peut que les arbres ne soient pas avertis, d'où le réseau des racines. Mmh. Et en fait, les racines s'entraident, s'entrelacent, et ils envoient des hertz comme des petits craquements, des bruits qu'on n'a pas totalement réussi à percer, mais on voit qu'on envoie des messages aux autres arbres pour dire « attention, il y a un prédateur qui arrive ». Donc à ce moment-là, tu peux envoyer ta substance toxique dans tes feuilles pour que le prédateur n'aime pas sa nourriture et puisse partir. Et enfin, notre réseau fongique, donc réseau de champignons qui vont d'un arbre à un autre, et là, ils s'envoient du CO2. Par le biais des champignons. Et l'auteur, alors il faut que je retrouve, il appelait comment, c'est assez drôle, le bois Wide Web. Voilà. Voilà. Et par exemple, donc, chaque arbre aide son voisin, aide à grandir, et ce qui nous a appris beaucoup sur la sylviculture, parce qu'on a toujours su, nous, par exemple, depuis toujours, on essaye d'espacer les arbres pour qu'ils aient un maximum de soleil, pour qu'ils aient un maximum d'eau, qu'un arbre prenne pas à l'autre. Grossière erreur, parce que il est prouvé, notamment par exemple la canopée, que les arbres rapprochés grandissent beaucoup mieux, beaucoup plus vite, sont beaucoup plus grands, beaucoup plus gros. Donc ça met à plat.
Par ce système de solidarité, en fait.
Par ce système de solidarité. Donc ça met à plat tout ce qu'on croyait savoir depuis des années et des années. Je vais m'arrêter là, parce que je vais pas tout vous dire sur ce livre, c'est assez intéressant. Oui, mais j'ai encore à dire.
Moi, j'aimerais savoir que tu dises, avant de finir ta chronique, comment il tombe amoureux.
Je ne le dirai pas.
Oh.
Et oui.
On va être obligé de le lire.
C'est ça, il va falloir venir le chercher à la lorgnette dès cet après-midi, avant qu'il n'y en ait plus. Alors, par contre, dans sa vie, ce Peter Wallenbaum, donc, il a décidé de se débarrasser, du coup, de toutes ces machines qui servaient à l'abattage massif de bois, de les remplacer par des attelages de chevaux. Alors, ses supérieurs, bien entendu, ne voyaient pas cela d'un bon œil. Donc, durant un temps, le forestier dut se résoudre à l'idée de déménager. Il en discuta avec sa femme, avec ses enfants, et il était finalement prêt à perdre son emploi. Au final, en 2006, la municipalité lui offrit sa chance. Elle mit fin au contrat, le liant avec la société d'exploitation forestière, embaucha directement le garde forestier pour s'occuper de tout ce qui était abattage des arbres, gestion des arbres. Et il a mis ses théories en application, plus de grosses machines, plus de pesticides. Il laissa les bois se développer de façon naturelle. Et au bout de 2 ans, l'exploitation de la forêt passa de la perte au profit. Ce qui n'était pas le cas avant.
Parce qu'il a continué à couper des arbres quand même.
Ben oui, mais de manière où je pense qu'il... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop expliquer ça, parce que ça, je l'ai
trouvé en dehors. On ne va pas tuer toutes les girafes parce qu'elles mangent tous les acacias d'Afrique.
Eh oui, c'est ça.
Voilà.
Bon, on ne va pas tuer de girafes, ça serait mieux déjà.
Ben voilà.
Et du coup, il y a plein de... Donc ça a été un best-seller, hein, et comme tu disais en début d'émission, Héloïse, ça intéresse beaucoup les gens en ce moment, les arbres. Alors j'ai vu une émission sur Arte il n'y a pas longtemps qui parlait de ce livre et qui déclinait, par exemple, au Japon. Le Japon est vraiment en avance sur nous. Ils font des tests pour savoir... Donc ils mettaient des jeunes pousses d'arbres dans une centrifugeuse qui faisait tourner non-stop pour savoir si les arbres continuaient à pousser droit. Et ils se sont rendus compte que les arbres poussaient droit. Et donc, par exemple, sur les quais de la Seine à Paris, il y a des arbres qui ont tendance à pencher. Et pour pas qu'ils tombent sur les passants, la municipalité à l'époque avait mis des grandes barres, des treuils pour les soutenir, sauf que ça blessait l'arbre et finalement, au final, l'arbre mourait. Et donc, ils expliquent par ces études que l'arbre, il se redresse tout seul. Tout seul, lui, il va faire un effort, il tombera jamais. Il ferait un effort, au final, de se redresser. Donc, la branche de départ, le pied sera un peu tordu. Et après, il va se redresser parce qu'il va corriger cette erreur. Et il va le dire à ses autres congénères pour qu'eux-mêmes corrigent. Au Japon, les scientifiques expliquent que l'homme a toujours vécu dans la forêt, que finalement, les villes, ce n'est pas notre habitat naturel. Ça fait que très, très peu d'années que les hommes vivent dans les villes. Et donc, ils font des expériences où ils mettent des étudiants japonais dans une pièce dans le noir en leur mettant une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, Héloïse ? Tu peux parler, vas-y, coupe-moi.
Je disais que les hommes vivaient dans les forêts. Et je parlais d'un livre qu'on a adoré avec Valérie qui s'appelle « L'homme qui savait la langue des serpents ». Ah. Oui, vivent en forêt, voilà, c'est tout. Désolée. Ah ben,
on pourra en parler ? Ils parlent des arbres ?
Non, pas trop.
Et donc, ils mettent ces étudiants dans des salles fermées où ils leur mettent des vidéos de forêt et on voit que la tension de ces personnes commence à baisser. Il n'y a plus d'anxiété quand ils se retrouvent dans cet environnement de forêt. Ils rajoutent des odeurs, pareil, de forêt et là, ça baisse encore plus, l'anxiété baisse encore plus. Ils se rendent compte que vraiment, l'être humain est fait pour vivre dans les forêts au milieu d'arbres et pas dans les villes, et que ça permet de retrouver pour ces gens qui restent sur du bitume, qui ne se baladent jamais, de retrouver l'essence naturelle de l'homme. Et donc, il propose aussi des randonnées en forêt pour retrouver un peu cette énergie que donnent les arbres.
On le voit même quand on se balade, nous, en forêt, on se sent vachement bien après. C'est hyper agréable.
C'est vrai.
Exactement. Donc, vraiment un livre à conseiller, ça se lit très rapidement. C'est aux Arènes. Alors, je connais pas cette maison d'édition, les Arènes.
C'est une maison d'édition qui publie beaucoup de best-sellers ces derniers temps. Il y a eu les lois naturelles de l'enfant. Il y a eu plein de choses en fait. Et en fait, ils prennent des ouvrages qui ont vraiment beaucoup marché, des essais qui ont beaucoup marché dans les pays d'Europe nous entourant, et ils les traduisent. Et à chaque fois, ça marche. Donc voilà. Le dernier best-seller des Arènes, c'est celui-là.
Voilà, et Peter reste garde forestier, il a dit de toute façon je vais pas entamer une carrière d'écrivain, c'était pas mon propos de base, et il reste dans sa forêt au contact des arbres.
Non, c'est super, hein. Franchement ça fait rêver, ça a l'air vraiment magique comme livre. Il parle des animaux dans les arbres ? Comment il gère les animaux, les oiseaux les...
Il parle de la relation, il parle de la relation à certains chapitres. Alors c'est 650 000 exemplaires, je vous ai dit 320 000, on est à 650 000. Ma source n'était pas fiable. Voilà, après c'est sous forme de chapitres, l'arbre malade, au fil des saisons, quand l'hiver arrive, rapport de force, le monde souterrain, chaîne contre être, etc., etc.
Et du coup, ça peut aussi aider les jardiniers, en fait.
Oui. Après, là, c'est surtout laisser pousser quasiment naturellement, s'en occuper très peu parce qu'ils s'autogèrent. Et donc, ils expliquaient que quand un arbre est malade et qu'il pleut, il y a de l'eau dans le sol, tous les arbres qui sont reliés entre eux vont laisser beaucoup plus d'eau à l'arbre malade pour qu'il guérisse. Et une fois que l'arbre sera guéri, ce sera à lui d'aider les autres parce que les autres seront un peu plus affaiblis par manque d'eau. Donc c'est vraiment tout un système, c'est vraiment une communication, c'est une vraie société, c'est extraordinaire
mieux
comme livre.
Une société même.
Ouais.
Bah super.
Ouais, super à conseiller, courez vite l'acheter, c'est très intéressant. Mais il est déjà une heure, on va pouvoir faire une pause musicale avant de passer à nos deux derniers livres. Ouais, pas mal, hein, Cocoon.
Oui.
Dernier album ?
Oui, dernière chanson.
Dernière chanson même, allez on va l'écouter. Summer turn to fall.
pies. Sexy mummy, small guitars. Sugar daddy, lullabies. Sleepy Yuki, the perfect place to be. We won't care about the winter. We won't care what the neighbors say. We'll sing all the time. I can't wait to see the silver.
On est reparti, cette émission spéciale Arbre. Valérie, un almanach, c'est ça?
Oui, l'almanach Vermeaux de...
Pardon, tu la refais, s'il te plaît.
Pardon?
Tu le refais, s'il te plaît.
Oui, je viens vous présenter aujourd'hui l'almanach Vermeaux de 1954.
Pourquoi 54, Valérie?
Eh bien, en fait, c'était le dernier qu'il me restait de ma collection. Non, en fait, n'ayant pas trouvé l'almanach Vermeaux spécial Arbre, je me suis rabattue sur l'extraordinaire almanach de la forêt, qui a la particularité d'avoir été écrit, illustré et annoté par des sorcières. Donc autant vous dire que ce que Pauline vous a lu de Jean Giono et ses arbres et tout ce que Ludovic vous a dit de Peter
Wolbendegen,
voilà, qui a vendu des millions d'exemplaires, c'est faux. Donc vous oubliez tout de suite, on ne va pas courir acheter le livre de Jean Giono ou celui de Peter
Wolbendegen.
Voilà, non, vous allez acheter l'extraordinaire almanach de la forêt, écrit, illustré, annoté par les sorcières, qui, bien sûr, comme vous le savez, vivant elles-mêmes dans la forêt au contact des trolls, disent toujours la vérité.
Rappelle-nous ce qu'est un almanach.
Ce qu'est un almanach. Un almanach, en fait, est un document, comment dire, un livre fait avec des arbres. Effectivement, certains se sont sacrifiés pour notre bonheur, sur lequel il y a des chiffres et des lettres qui forment comme un calendrier.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est là où on va voir, par exemple, 1 janvier, qui correspond au premier jour de l'année, donc 1er janvier, 2 janvier, deuxième jour du mois de janvier.
D'accord.
Et tous les 30, 31 jours, à peu près, on change l'intitulé qu'on appelle les mois. Voilà.
Et dans l'almanach Vermeaux, il y a une petite blague très sympa tous les jours.
Voilà. Ben là, c'est à peu près la même chose, en fait. Sauf que ben, c'est un peu plus complet que l'almanach Vermeaux, puisque donc écrit, illustré, annoté par les sorcières. Donc, on va être sur le thème des arbres et de la forêt. On va avoir l'almanach en lui-même, qui va être vraiment almanach Vermeaux, puisqu'il va être écrit style encre de Chine assez noir sur une page assez jaune. Donc, on pourrait penser que c'est l'almanach Vermeaux. Mais c'est un peu plus drôle par moment, un peu plus intelligent souvent, et passionnant tout le temps. Donc, entre les mois, il y a les saisons qui sont en couleur, par contre, qui sont très, très joliment illustrées. Donc, si on commence par l'hiver, par une très jolie double page en peinture, où on va avoir un peu d'explications faites par les sorcières. Alors, elles s'y sont mises à très, très, très nombreuses, les sorcières, pour nous expliquer. Alors, on va avoir des recettes de cuisine. Ici, on va avoir une limonade d'oseille, du vin de bouleau, du thé de conifère. Et ce n'est pas des blagues, ce sont des vraies recettes. Alors, je pensais que c'était un livre pour enfants, mais on a 2-3 recettes
d'alcool,
vin ou autre. Donc, c'est à mieux pour les parents qui se tapent de devoir lire le livre, l'almanach, tous les jours à leurs enfants.
As-tu testé une recette?
J'ai hélas pas eu le temps.
D'accord.
Voilà, je l'ai lu un peu au dernier.
On l'essaiera d'ici la prochaine émission. Que...
Bah, le vin de bouleau, ce n'est pas trop la saison, je pense, mais on pourra faire un thé de conifère sans problème.
Parfait, ça.
Par contre, attention, il ne faut surtout pas cueillir de l'if parce que l'if est toxique. Ah. Sympa, les sorcières, quand même, de leur prévenir.
Faire confiance, alors.
Oui. Après, elle nous explique comment faire le brou de noix, qui est pour faire la peinture qui avait été utilisée au moment par Soulages, par exemple. Donc, vraiment, les sorcières... renseigner, rencarder. Hein. Voilà, donc on a toutes les saisons. Donc une double page avec un très joli dessin sur les saisons, suivi donc de petites recettes, de petits secrets pour faire un peu de land art, aller glaner dans la forêt des noix, des bouts de bois, des feuilles et faire des jolies petites décos ou des jolis petits cadres. Puis une recette de cuisine, des trucs et astuces. On est vraiment sur un almanach complet. Et au fur et à mesure de la lecture qui se fait au hasard de l'ouverture ou au hasard, enfin, ou en suivant le calendrier, on a juste envie d'aller en forêt, on a envie de tester, on a envie de découvrir, on a envie de trouver le bâton parfait qui fera bâton de sourcier, on a envie d'aller écouter une chouette, on a envie d'aller trouver une veste de loup juste pour faire éclater un peu de poudre tout autour de soi, voilà. Donc, l'almanach est complet, il fait quand même 180 pages. On peut l'avoir toute l'année avec soi parce qu'il y a vraiment... Et en plus, les conseils qui sont donnés dans l'almanach forcément correspondent aussi à ce qu'on peut trouver en saison dans le livre. Ça, c'est vraiment le livre en lui-même. Donc déjà, il est enchanteur, ce livre. Et bah, pour faire la chronique, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je me rencarde un petit peu sur la maison d'édition. Ça, généralement, c'est Louise qui le fait. Mais en cherchant sur l'auteur... Je suis tombée sur sa maison d'édition, puisque l'auteur, elle a créé aussi sa maison d'édition, le Lumignon, pardon. Et ses livres ont été faits par appel participatif sur Ulule, qui a cartonné, enfin, qui a été financé plus. Et du fait que le financement participatif a été très bon, elle a pu améliorer encore plus sa parution. Alors, elle est basée sur Nantes. Donc, il y a quand même beaucoup aussi dans l'almanach, ce petit côté justement fée, un peu...
Oui, forêt de Brocéliande.
Voilà, on est un peu dans cet imaginaire-là, donc c'est encore plus enchanteur. Et voilà, donc elle a créé sa petite maison d'édition, je ne sais plus, c'est Anne Gillet, je ne sais plus son nom, c'est pas bien, parce que je me suis fait voler mon livre là pendant la chronique. Donc, Pauline va nous dire qui est l'auteur dès qu'elle l'aura retrouvé. Attends, je vais le trouver là, sinon. Anaïs Goldenberg, pardon. Voilà. Qui a créé, du coup elle avait été illustratrice pendant longtemps et là elle a décidé quand elle a voulu sortir donc son premier livre de créer sa propre maison d'édition pour avoir des tirages peut-être en moins grande quantité mais qui vraiment soit fait comme elle a envie de le
mais
faire.
C'est vrai qu'il est très beau, il est très attractif et il est plein de comme tu dis de petites astuces. J'imagine que l'auteur doit passer beaucoup de temps en forêt avec les arbres.
Ça donne l'impression, oui. Et c'est vrai qu'en plus d'avoir, il y a ce côté sérieux, mais le fait que ce soit écrit, rédigé par des sorcières ou même des fois il y a des trolls quand même pour faire la part belle au monsieur, sinon ça faisait c'est peut-être trop axé que pour les filles, mais de ce fait-là, ça met une petite touche d'humour. Voilà. Après, je pense que si on compare ce qu'elles disent, je pense que c'est tout à fait vrai. Après, il y a des choses un peu peut-être moins étayées que sur ton livre Ludovic que je présente, qui avait l'air très très bien.
Non, mais c'est super intéressant et c'est surtout un très bel ouvrage.
Ouais. C'est très joli, il y a une petite surprise à l'intérieur, il y a une petite carte des sorcières.
Qui très belles illustrations.
Les sorcières. Ils sont sept illustrateurs.
Sept
illustrationnistes à avoir travaillé donc pour cet ouvrage.
Pour les sorcières.
Et ça se ressent énormément en fait et ça permet justement de bien séparer tous les chapitres en fait entre l'almanach, entre les recettes de cuisine, par moyen de la couleur, il n'y a pas de couleur et ça se marie très bien, ça fait pas fouillis. Justement, c'est très bien construit parce que c'est vraiment par saison et ça donne envie moi au début je commençais à le lire en suivant bêtement puis au bout d'un moment je dis tiens quel est évidemment le jour de mon anniversaire, qu'est-ce qui est dit, puis j'ai regardé un peu toute la famille, qu'est-ce qui était dit, puis je dis bon allez je vais voir au hasard, enfin. Et on a envie de l'ouvrir à n'importe quel moment, de regarder, tester une recette. Enfin, voilà,
Et donc, ça serait à partir de quel âge, tu penses ?
J'allais dire, il n'y a pas d'âge. Parce moi, que bon, d'âge. Tout petit, ils peuvent regarder les images. Bon, c'est peut-être un petit peu sombre, mais les celles qui sont en couleur sont vraiment très, très mignonnes, très colorées, très belles et ça, très inspirantes. Après, dès que l'enfant sait lire, il peut le regarder, parce que c'est des petits textes courts. Et après, j'allais dire, jusqu'à... peut-être même des jeunes ados. Alors après, je suis un peu déconnectée de comment fonctionnent les ados, mais moi, je crois que... Pré-ado, ça m'aurait plu dans le sens ce petit côté sorcière qui fait très sérieux, parce que quand ils en parlent dans le livre, c'est très très sérieux des sorcières. Et je n'arrive pas à donner un âge maxi.
Oui, ça peut être même pour adulte en fait.
Ah oui, enfin, moi en tant qu'adulte, je me suis délectée du livre parce qu'il y a des choses qui sont en plus qui sont un peu caustiques, qui peuvent pas être comprises par l'enfant, mais l'adulte lui va se marrer en le lisant.
D'accord. Voilà. Bah super.
Des pubs détournées par rapport à la vie en forêt, des choses comme ça. Ça, voilà, l'enfant, lui, il va dire ok, c'est une pub. Mais voilà, l'adulte, lui, il va se marrer. Voilà.
Merci beaucoup, Valérie.
Avec plaisir.
Allez, Louise.
Allez. Alors, moi, j'ai lu un livre de.
Elle se moque de nous, Héloïse. Elle a un livre de 4 pages, quoi.
Ouais, mais c'est le Clésio, quand même. Attends.
C'est le premier livre qui existe qui n'a que 4 pages.
C'est ça.
Pas du tout. J'ai quand même. Il y a 32 pages,
ah,
tu vois. Alors attention.
C'est 8 fois plus.
Ouais.
Alors c'est quand même un livre écrit par Luc Lesio. Luc Lesio, qui est notre récent prix Nobel de littérature français. Quand même.
Et quelle lui, année, Valérie? Allez, fais un effort.
Non, je sais pas. 2000...
Popo.
Oh, pas la moindre idée. 89.
Non, c'était plus récent, c'est les années 2000, ouais.
D'accord.
Je sais pas, je dirais 2010.
Allez, on va vérifier, on va vous dire ça.
Donc, le livre s'appelle Voyage au pays des arbres. Il est illustré par un illustrateur provençal qui s'appelle Henri Galleron. Donc, c'est un livre assez ancien et c'est un petit livre jeunesse qui parle, qui a écrit Luc Lesio et qui parle en fait d'un jeune garçon qui s'ennuie un peu chez lui. Il aurait envie d'aller dans les airs, à la mer, quelque part à la montagne. Enfin, il aurait envie de bouger, en fait, parce qu'il s'ennuie de pied ferme chez lui. Et au bout d'un moment, le petit garçon se dit « Oui, mais bon, il y a quand même une forêt à côté de chez moi. Il y a peut-être des choses à faire dans cette forêt. » Voilà. Donc, il va, en fait, aller au contact des arbres. Il est persuadé, il est vraiment persuadé que les arbres sont vivants, que les arbres ont une existence, que les arbres ont des pensées, que voilà. Et il se dit, il suffit d'être patient, il suffit qu'ils m'apprivoisent et que je les apprivoise, et comme ça, ils vont se dévoiler à moi. Et donc, il passe beaucoup de temps en forêt, dans les clairières, comme s'il attendait un animal. En fait, il ne fait rien, il est silencieux, ou alors il siffle un peu comme les oiseaux pour que les arbres se réveillent. Et petit à petit, en fait, il aura la confiance des arbres et les arbres vont effectivement se révéler. Ils vont sortir leurs racines, ils vont sortir leur visage, leurs yeux vont s'ouvrir. Et ils vont communiquer avec le petit garçon et entre eux. Parce que ce que dit le petit garçon, c'est que les arbres sont très, très bavards. Des fois, parfois, même les arbres le saoulent totalement, notamment les épicéas, les pins, qui sont des gros bavards et il n'en peut plus. Voilà. Et donc, il va vivre, en fait, toutes ses vacances sous cet été-là avec les arbres. Et c'est vraiment... c'est un vrai voyage à côté de chez lui, en fait. Une vraie découverte, de vraies amitiés à côté de chez lui. Voilà.
Et quand il a eu son prix Nobel de littérature, Luc Lesio, en 2008, est-ce qu'il avait déjà écrit ce livre?
Oui, Valérie.
Merci.
Très bien, Valérie. C'est pour enfants, alors?
Alors oui, c'est pour enfants. Enfin, première lecture, premier roman. Donc, je dirais à partir du CE1, CE2, ouais, peut-être. Voilà. Donc, je peux vous en lire un petit passage, si vous voulez.
Absolument.
Parce que c'est vrai que c'est beau, c'est très bien écrit. Bien sûr, quand on les regarde, les arbres ont l'air immobiles. Ils sont debout dans la terre avec leurs branches écartées et leurs milliers de feuilles qui tremblent et tournent dans le vent. Ça, c'est une ruse des arbres pour faire croire qu'ils restent toujours au même endroit pendant des années et des années. Ils ont l'air paisibles et doux, fixés dans la terre noire par les racines solides. Si on les regarde sans trop faire attention, on peut croire qu'ils ne veulent rien, qu'ils ne savent rien dire. Mais le petit garçon savait que ce n'était pas vrai. Les arbres ne sont pas immobiles. Ils ont l'air de dormir comme cela, d'un sommeil épais qui dure des siècles. Ils ont l'air de ne penser à rien. Le petit garçon, lui, savait bien que les arbres ne dormaient pas. Seulement, ils sont un peu farouches et timides, et quand ils voient un homme qui s'approche, ils resserrent l'étreinte de leurs racines et ils font le mort. Ils sont un peu comme les coquillages à marée basse qui s'agrippent sur les vieux rochers chaque fois qu'ils entendent le bruit des pas d'un homme qui avance. Il faut apprivoiser les arbres. C'est beau. Voilà.
Oui, très bien.
C'est très mignon, c'est très beau. Après, les illustrations, c'est très classique et c'est un peu daté de cette littérature des années... années 80, voilà. Oui. Mais en même temps, voilà, ça a aussi son charme.
Ouais, exactement.
Exactement. Et c'est vraiment un très beau texte qui est recommandé par l'Éducation nationale.
D'accord. Très bien. Merci Héloïse. Allez, on va finir en beauté cette émission, bien qu'elle soit déjà très belle. Ouais. Mais Popo a eu un coup de cœur.
Ah, j'ai eu un livre sublime, très très beau. Mais déjà pour commencer, je vais vous demander, est-ce que vous connaissiez le peuple gond ou gonde ?
Non.
Moi, je suis comme Valérie, je suis honnête, alors je dirais non.
Et pourtant, c'est un peuple indien qui compte beaucoup d'individus. Moi, j'avais jamais entendu le nom. J'ai trouvé jusqu'à 11 millions de personnes. Enfin, c'est un... Alors après, les chiffres varient selon... selon là où on cherche les infos, mais voilà, c'est un peuple quand même important. Et donc, qui a placé l'arbre au cœur de ses mythes, de ses histoires, de la vie en général. Pour eux, l'arbre, le jour, c'est un abri, c'est lui qui va fournir de l'ombre, c'est lui qui va fournir la nourriture. Et la nuit, l'arbre a une vie. L'arbre a une vie... en communion avec la nature, évidemment, tout ça, voilà, tout son esprit va se dévoiler, et puis tout un imaginaire, il y a tout un imaginaire qui va se créer autour des arbres. Donc voilà, c'est un peuple qui a beaucoup de récits et de contes, de légendes autour notamment des arbres. Et ils ont, alors là, c'est pareil, j'arrive pas trop à, selon les sources que j'ai consultées, j'arrive pas trop à trouver l'info. Si c'est un peuple d'artistes qui peint énormément, qui peint sur ses maisons, qui peint sur le sol, enfin qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup d'art. J'arrive pas à savoir par contre si c'est traditionnel ou pas, si ça date de. Ça, je ne saurais pas vous le dire.
Oui, on est assez peu renseignés, en fait, sur ce peuple.
On est assez peu renseignés. En même temps, on trouve énormément de choses, mais c'est ultra varié. Donc, c'est souvent le problème avec Internet aussi. Hein, mais du coup, je n'arrive pas à savoir vraiment. Bref, en tout cas, aujourd'hui, c'est un peuple qui peint beaucoup. Et du coup, ce que nous propose ce livre qui s'appelle « La vie nocturne des arbres », c'est de découvrir l'argonde à travers... tous ces mythes qui entourent les arbres. Et le résultat est fabuleux. En fait, c'est un livre qui est entièrement fabriqué à la main. A priori, même le papier serait fabriqué à la main. Et qui a été tiré à 3000 exemplaires. Les exemplaires sont numérotés. C'est assez sympa, déjà, je trouve.
Ouais, sympa, ouais.
Et donc, il y a trois artistes gonds qui ont travaillé sur, qui ont illustré en fait des extraits de mythes liés aux arbres. Et donc, les œuvres originales ont été reproduites en sérigraphie pour ce livre sur du papier noir. Donc, c'est des dessins d'arbres qui ressemblent à des arbres, mais ces arbres sont souvent mélangés avec des animaux, en fait en lien avec le mythe qui est raconté, un tout petit texte à côté de chaque illustration. Et c'est très très bien fait parce que donc on dirait que les arbres sont vivants de ces animaux, vivent de ces animaux. Enfin, c'est très très joli. J'ai du mal à décrire les dessins, c'est des lignes très fluides, des couleurs vives, pas flashy, pas kitsch, mais qui ressortent énormément sur ce papier noir. Et donc, on a à chaque fois un petit extrait ou un petit mythe de raconter, et à côté, l'arbre qui illustre le mythe. Et bon, pour les mythes en eux-mêmes, s'il n'y avait que ça, ce ne serait pas forcément un livre incroyable. Mais les dessins sont absolument fabuleux. Vraiment, c'est difficile de décrire un dessin comme ça. Là, c'est pour le coup, ça aurait été bien de le montrer.
Ça me fait penser un peu à la peinture aborigène d'Australie, enfin dans un sens.
Oui, oui, un petit quelque chose, ouais.
Oui, en même temps, sur la première page, on dirait un arbre éléphant. Comment il s'appelle, Ganesh ? Non, c'est pas Ganesh.
C'est Ganesh, ouais.
Ah non, c'est très beau, effectivement.
C'est superbe. Et puis la technique de la sérigraphie, ça donne un style aux illustrations très particulier. Ça les fait vachement ressortir. Enfin, c'est très, très beau. On a, c'est horrible ce que je veux dire, mais on a presque envie de découper les pages et de les encadrer.
C'est ça. C'est hypnotisant.
Et après, du coup, c'est plutôt un livre pour adultes, pour apprécier.
Oui, finalement, c'est chez Actes Sud Junior. Mais... Bon, alors après, on pourra le regarder avec un enfant, mais c'est aussi, je pense, un livre d'art pour adultes aussi. Hein, c'est.
Et ce papier, c'est quoi, ce papier noir, tu sais ou pas
hein? Non, j'ai pas. Peut-être. Et ils en parlent pas dans le bouquin lui-même. J'ai trouvé des choses sur la fabrication sur Internet, mais j'ai pas noté le papier.
En tout cas, c'est un très bel ouvrage. Oui.
Ah, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment superbe.
Donc, tu as l'exemplaire combien là?
J'ai le 1460.
D'accord.
Voilà. Donc, vous pouvez aller le chercher à la lorgnette. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui l'auront, à mon avis.
Il n'y en a plus, de toute façon. Enfin, le tirage est terminé.
Ouais. Oui, on va se battre dans cette émission.
Une vraie merveille.
Ok, super. Ouais, très, très intéressant. Pourquoi vous rigolez?
C'est une private joke avec Valérie.
D'accord, bon, je vous la laisse alors. Super Actes Sud. Peut-être que non, il y en a plus du tout en vente, même si on se rapproche d'Actes Sud.
Et non. Et des photocopies.
Non. Après, à partir du moment où un tirage est limité et où il est numéroté, c'est fini, quoi.
Non, mais Valérie, n'importe quoi. On fait des photocopies. Ben oui, allons couper des arbres. Ok, merci beaucoup.
Voilà, espérons que vous ayez plus appris un peu sur les arbres.
Posez vos oreilles sur les boulots en entendant le glouglou à l'intérieur.
Voilà.
Mais c'est vrai.
Mais pas ce week-end, parce qu'il neige et vous allez vous geler l'oreille. Mais peut-être dans la semaine prochaine. Émission très intéressante. Merci à vous trois. On se retrouve dans 2 semaines avec une émission intéressante.
Oui, une émission science et mathématiques et physique et tout ça.
Alors, on a vu dans cette émission que Valérie connaissait ses tables de multiplication.
C'est ça, voilà.
Donc,
mais en
dans
physique
2 semaines,
aussi, j'ai une grande connaissance sur en tout corps aussi. En mouvement est amené à se déplacer, des choses comme ça.
Ouais. Voilà. Ah ben ça, c'est vivement dans 2 semaines, on va s'éclater. Voilà. Allez, merci, soyez prudents sur les routes et à bientôt. Ciao.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.